Ce soir, nous recevons Daniel Rouen. Daniel Rouen est né le 21 septembre 1950. Il est directeur de recherche au CNRS. Il est directeur adjoint du département spatial de l'Observatoire de Paris-Meudon. Il est responsable du DEA astrophysique et méthodes associées de l'Université Paris 7. Pour ses diplômes, c'est un ancien élève de l'École normale supérieure. Il est agrégé de sciences physiques et docteur d'État. Dans son parcours, il y a vraiment quelque chose qui est très important. C'est entre 1984 et aujourd'hui, il a participé au développement du satellite infrarouge ISO et donc est un spécialiste notamment de l'astronomie infrarouge. Il est également spécialiste du milieu interstellaire, des exoplanètes, de l'instrumentation infrarouge, de l'optique adaptative et des projets spatiaux. Parmi ses publications, il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisé national et international, mais il a aussi participé à tout un ensemble de choses plutôt de vulgarisation, puisqu'il a écrit des articles dans l'Encyclopédia Universalis. Il a aussi écrit des articles, par exemple, dans La Recherche ou dans la revue de la Société française d'optique. Il est membre du conseil d'administration du télescope Canada-France-Hawaï et membre de l'ESO Scientific Advisory Committee. Voilà. Daniel Rouen, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes. Après quoi, pourra suivre un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Je vous remercie.
Merci. Bon, d'abord, je dois, je crois, vous féliciter d'avoir osé affronter les éléments déchaînés pour venir assister à cette conférence. Je dois dire que j'en suis très flatté. J'espère que je saurai ne pas décevoir vos attentes. Alors, cette image de l'astronome, symbolisé ici, un peu désuète, l'œil rivé à sa lunette, est vraiment rangé au musée, et ce, au moins deux titres. D'abord, là, il y a déjà pas mal de temps que l'astronome ne met plus son œil à la lunette, il l'a remplacé par des instruments plus sensibles, surtout plus fiables en fait. Et puis, il a également commencé à explorer d'autres domaines du rayonnement, d'autres longueurs d'onde qui lui ont ouvert en fait la porte à des nouveaux phénomènes et qui lui ont permis de découvrir des objets et des conditions physiques tout à fait qu'il aurait été impossible de découvrir par la seule analyse de la lumière visible. Et c'est donc cette multiplicité des regards que l'astronome a développé donc au cours de ces dernières décennies qui a donné le titre de cette conférence, les nouveaux regards de l'astronomie. Avec, donc, vous donner un peu une idée de ce qu'est la palette des instruments modernes de l'observation. En fait, c'est une ambition très grande. J'ai dû me limiter à quelques domaines. Donc, j'ai choisi d'illustrer trois domaines. Le domaine des rayons X, avec ici le satellite XMM. Le domaine donc, du visible et de l'infrarouge proche, qui demeure quand même très important, avec ici le VLT, le Very Large Telescope. Et puis, enfin, le domaine du millimétrique, un autre domaine de longueur d'onde, donc, avec aussi l'instrumentation associée. Alors, on va d'abord parler du spectre électromagnétique. Alors, c'est un nom peut-être un peu compliqué, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Et il faut d'abord faire cette remarque que l'astrophysicien, ça n'est pas péjoratif, mais est essentiellement un physicien passif. Il observe l'univers, mais il n'agit pas dessus. Alors, bien sûr, il y a des exceptions pour le système solaire, que lorsqu'on envoie une sonde sur Mars pour gratter le sol, lorsqu'on envoie un éco-radar sur des planètes, on agit sur l'univers. C'est quand même très localisé au système solaire. Pour le reste, il l'observe. Pour observer, il peut s'intéresser à plusieurs sources, disons, sources d'informations. Il y a les rayons cosmiques, par exemple. Il y aura dans quelques années les ondes gravitationnelles, mais de loin et de très loin, la source, le grand pourvoyeur d'informations pour lui, c'est le rayonnement électromagnétique. Alors, on en connaît deux formes qui sont assez courantes, finalement, c'est la lumière, tout simplement. La lumière, c'est du rayonnement électromagnétique. Et puis la radio, les ondes radio, c'est quelque chose qui est familier, on les connaît bien. Alors, en fait, donc, si on s'intéresse à la lumière, donc je disais que le petit domaine, le domaine que j'ai symbolisé ici par cette octave sur un piano, donc des couleurs finalement de l'arc-en-ciel, eh bien ça reste un domaine très petit. Alors j'ai mis un octave parce qu'effectivement, ce domaine correspond à peu près en longueur d'onde, je vais revenir sur la définition des longueurs d'onde, correspond à un octave, c'est-à-dire on peut près, on multiplie par deux la longueur d'onde entre la plus courte que l'œil peut observer et puis la plus grande. Et en fait, l'astrophysicien va s'intéresser à des longueurs d'onde beaucoup plus petites, qui vont correspondre à du rayonnement beaucoup plus énergétique. Alors, Si vous écoutez bien, il y avait une petite musique, mais je ne sais pas si vous l'avez entendue. Et donc, ces longueurs d'onde beaucoup plus courtes vont nous conduire donc, des ultraviolets aux rayons X et jusqu'au rayonnement gamma. Des rayons donc extrêmement énergétiques. Et puis, de l'autre côté, alors, peut-être l'entendre. On l'a un peu entendu. Et bien, de l'autre côté, on va aller, au contraire, du côté des très grandes longueurs d'onde. Donc parcourir le domaine de l'infrarouge, du millimétrique, et puis des ondes radio kilométriques. Alors, j'ai parlé de longueur d'onde, quelques brèves définitions. Donc une onde électromagnétique, en fait, ça se propage exactement comme une onde, comme des ronds dans l'eau à la surface d'un étang. Donc ce que j'ai finalement représenté par cette petite animation, on voit les ondes qui se propagent, et finalement les ondes électromagnétiques se propagent de la même façon à partir d'une source. Et donc, on va définir, si j'arrive à arrêter mon animation, on va définir donc des grandeurs à partir de cette propagation. La première va être la longueur d'onde, qui est simplement la longueur, la distance, disons, entre deux crêtes de cette onde qui se propage. Et puis, on va définir aussi une période, puisque finalement, cette propagation se fait toujours à la même vitesse, la vitesse de la lumière. Et donc, on va pouvoir relier la période, qui est le temps entre le passage de deux de ces crêtes, et puis la longueur d'onde, simplement par la vitesse de la lumière. Donc on a une relation simple, il n'y aura pas beaucoup d'équations, ne vous inquiétez pas, mais une relation simple, qui est la longueur d'onde est égale à la vitesse de la lumière fois la période, où on parle en fait plutôt de fréquence, c'est-à-dire l'inverse de la période. Donc la longueur d'onde est liée à la vitesse de la lumière par cette relation. Avec la fréquence qui est donnée en Hertz, qui est aussi une unité finalement assez connue. Alors, j'ai intitulé cette diapositive « Le piano électromagnétique, pourquoi ?» Parce qu'en fait, ce domaine du rayonnement électromagnétique est absolument gigantesque. Il est gigantesque parce qu'il couvre 21 décades. 21 décades, ça veut dire... Alors, 21 décades en longueur d'onde, ça veut dire 100 milliards de fois. C'est-à-dire que la longueur d'onde du rayonnement le plus grand que l'astrophysicien va étudier, le kilomètre, disons, eh bien, va être 100 milliards de fois plus grande que la longueur d'onde du plus court du rayonnement qu'il va observer, qui sont les rayonnements gamma. Donc c'est vraiment un domaine gigantesque. Alors, si je reviens à mon image du piano, eh bien, ça serait un piano qui couvrirait 70 octaves. Il faut un sacré musicien pour travailler avec un tel instrument, mais en fait, l'astrophysicien va l'utiliser, ce piano. Alors, en fait, ce qui est étonnant, c'est que sur un tel domaine, malgré tout, les principes physiques qui gouvernent la création et puis la propagation de ces ondes électromagnétiques sont les mêmes. Et c'est ça qui est assez étonnant. On doit aussi parler de l'énergie. Alors, l'énergie du photon. Le photon, en fait, c'est une autre forme que va prendre ce rayonnement électromagnétique, que ce soit la lumière, mais aussi tous les rayonnements électromagnétiques, le gamma, le rayonnement radio. Lorsqu'on considère que la lumière va se définir sous forme de petits granules, je dirais, d'énergie, qui sont le photon, et qui emportent une énergie qui est bien définie, qui est définie par cette relation, qui relie simplement donc l'énergie à une constante, la constante de Planck, du nom donc du physicien dont on vient de fêter en fait le centenaire de sa loi, il est très récemment, et donc divisé par la période où, en fait, le physicien parle plutôt, il préfère utiliser cette relation E égale H nu, cette constante de Planck multipliée par la fameuse fréquence. Donc ça veut dire qu'un photon radio contiendra peu d'énergie, il en contiendra même 10 puissance 21 fois moins qu'un photon gamma. Donc vous voyez, là encore, on imagine bien qu'avec une telle couverture en énergie, eh bien, les phénomènes qu'on va observer vont être totalement différents suivant qu'on va s'intéresser à des rayonnements gamma ou X, et puis d'un autre côté à des rayonnements dans le domaine millimétrique ou radio. Alors, grosso modo, disons une règle assez simple finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que déjà plus un corps est chaud, et plus il va émettre des longueurs d'onde courtes. Alors, là encore, et ça sera la dernière équation, je crois. Si on considère justement cette longueur d'onde donnée en micromètres ici, eh bien, elle est reliée à la température d'un corps, de façon simple, disons que le corps va émettre dans plusieurs longueurs d'onde, mais la principale, les longueurs principales, ça va être donc à une longueur d'onde de 3000 sur T, où T est la température du corps donnée en Kelvin. Alors un exemple simple, la température ambiante autour de nous, c'est 300 Kelvin. Donc 3000 sur 300, c'est 10 microns. Le rayonnement, vous, moi, nous émettons à 10 microns, et c'est la longueur d'onde favorite d'ailleurs des militaires pour chercher justement à développer, à détecter par exemple des hommes sur le terrain, ils développent des caméras à ces longueurs d'onde. Un autre exemple, eh bien, c'est celui du Soleil. La température de surface du Soleil est de 6000 Kelvin. 6000 Kelvin, voyons, on fait la relation très rapidement. 3000 sur 6000, 0,5 microns. Ben, effectivement, le Soleil émet dans le visible. 0,5 microns, c'est la longueur d'onde du domaine visible. Ça marche bien. Alors, on y reviendra. Et donc, si vous voulez, on va voir que, du coup, les rayonnements très énergétiques correspondront à des objets très chauds et les rayonnements moins énergétiques à des objets beaucoup plus froids. Alors, si on regarde juste comme ça, ce que donne la Voie lactée à notre galaxie, vue dans ces différents rayonnements, bien voici à quoi ça ressemble. Finalement, ce n'est pas forcément très différent. Ce qui est déjà très surprenant, c'est qu'on voit que les rayonnements gamma ici, donc les plus énergétiques, ben, ça ressemble beaucoup comme distribution. Donc, hein, c'est la galaxie vue par la tranche, la Voie lactée. Hein, on l'a observée donc avec différents instruments. Mais ça ressemble aussi pas mal aux rayonnements radio. Alors, ça paraît un peu surprenant à partir de ce que j'ai dit, mais simplement ça veut dire qu'il y a aussi des concentrations, des régions, disons par exemple des régions de formation d'étoiles, où on va observer en fait des phénomènes à la fois dans du gaz relativement froid, caractérisé par la radio, et puis des phénomènes extrêmement énergétiques qu'on retrouvera dans les rayonnements gamma. Alors, ce qui est assez étonnant finalement, quand on regarde ces différentes longueurs d'onde, on s'aperçoit que finalement c'est dans le visible, hein, dans la lumière, qu'on a une information qui est presque la moins riche. Alors, elle est moins riche simplement parce qu'il y a de la poussière dans le plan de notre galaxie. Cette poussière bloque la lumière. Et en fait, on voit que très près du Soleil, cette émission, alors que la plupart des autres rayonnements vont pénétrer, traverser cette poussière et permettront d'aller voir beaucoup plus loin. Alors, et l'univers, comment rayonne-t-il? Alors, ça aussi, c'est assez amusant de considérer un peu cette émission, comment se répartit l'émission du rayonnement de l'univers. Alors, ce que j'appelle rayonnement de l'univers, finalement, c'est lorsqu'on a, à grande échelle, on fait la moyenne, si vous voulez, de mesures faites sur le ciel, hein, le rayonnement, disons, de fond de ciel. Bon, un graphique qui paraît peut-être un peu difficile, mais en fait, qui n'est pas si difficile, qui monte simplement en fonction là, de la fréquence, mais les longueurs d'onde, ben, on les a ici. Donc sur tout ce grand domaine du spectre électromagnétique, comment se répartit l'énergie? Et en fait, on voit que l'énergie est maximum aux très très basses fréquences, hein, donc aux très grandes longueurs d'onde, et en fait, ça correspond ici à l'émission de ce fameux corps noir cosmologique qui a valu donc à Penzias et Wilson, notamment d'avoir le prix Nobel, la découverte de ce corps noir cosmologique. Donc vous voyez, on émet surtout dans le domaine millimétrique, enfin l'univers émet surtout dans le domaine millimétrique. Deuxième constatation intéressante quand même, c'est qu'il y a un grand principe en physique qui s'appelle le principe d'équipartition de l'énergie. En gros, ça veut dire que, de façon générale, dans les systèmes complexes où l'énergie peut revêtir de différentes formes, eh bien, l'énergie se répartit en gros entre les différentes formes. Toutes les différentes formes ont à peu près le même niveau d'énergie. C'est assez étonnant, mais c'est un grand principe de la physique. Et la ligne qui donnerait ici l'équipartition exacte de l'énergie, vous voyez, elle est ici. Eh bien, finalement, ce n'est pas si loin que ça de l'équipartition de l'énergie. Même au niveau de l'univers, bon, à part donc l'émission du corps noir cosmologique, je dirais, le principe d'équipartition d'énergie fonctionne pas trop mal. Alors, il y a un problème quand même pour faire toutes ces observations, bien c'est l'écran de l'atmosphère. Pour beaucoup de longueurs d'onde, en fait, l'atmosphère va absorber ce rayonnement. Donc là, ici, on a représenté, lorsque vous avez donc c'est la courbe donc, de transmission, finalement, de l'atmosphère. Donc lorsqu'on voit la courbe qui monte, eh bien, l'atmosphère transmet. Alors, bien sûr, on a la fenêtre du visible, on voit bien les étoiles depuis le sol, il n'y a pas de problème, sauf un jour comme aujourd'hui, bien entendu. Et puis, il y a ensuite le domaine de l'infrarouge, où il y a un certain nombre de fenêtres, de petites zones, disons, où on peut observer un grand trou dans l'infrarouge lointain, à 100 microns, autour de 100 microns, et puis ensuite, on recommence à voir un petit peu à travers l'atmosphère, et puis alors, le domaine de la radio jusqu'à à peu près 10 mètres de longueur d'onde, là, ça va, pas de problème, on peut observer facilement depuis le sol, et puis à nouveau, à cause de la réflexion ionosphérique, eh bien, on n'observe plus les grandes longueurs d'onde. De l'autre côté, du côté des énergies très grandes, donc des rayonnements ultraviolets, X ou gamma, eh bien, là, l'atmosphère devient complètement opaque, absolument impossible d'observer depuis le sol, et donc là, la seule solution, eh bien, c'est la fusée de Tintin qui nous l'indique, c'est d'aller dans l'espace, bien sûr. Donc dans l'espace, avec des satellites, on va pouvoir observer donc, ces différents domaines de longueur d'onde. Alors, en général, donc, un instrument qu'on va développer donc, pour observer un certain domaine de longueur d'onde, eh bien, il va correspondre à... Typiquement, il va couvrir, je dirais, quatre fonctions. D'abord, on aura besoin de capter, on va avoir une grande surface collectrice. Alors, bon, ben là, je l'ai illustré là, par un projet, par exemple, de télescope de 20 mètres de diamètre, composé, vous voyez, de télescopes eux-mêmes, d'un ensemble de 6 télescopes de 6 mètres de diamètre chacun. Et ce projet verra peut-être le jour, ça peut être installé sur le sommet du Mauna Kea à Hawaï d'ici 5-6 ans, peut-être. Donc il faut une grande surface pour collecter, mais il faut aussi une grande surface, vous le verrez après, une grande dimension pour bien séparer les objets. La deuxième chose, c'est détecter. Détecter, ben, il faut des détecteurs, il faut des capteurs. Alors là, j'ai illustré le problème avec en montrant une caméra qui est utilisée actuellement au télescope Canada-France-Hawaï, une caméra qui comporte, donc, vous voyez, 12 300 par 8200 pixels, c'est-à-dire à plus de 100 millions de pixels, donc on sait déjà nettement plus que votre appareil photo numérique. Mais ça utilise absolument les mêmes types de capteurs, des capteurs CCD, bon, peut-être un petit peu plus striés, un peu plus performants, mais c'est les mêmes types de capteurs. Alors, une troisième fonction importante, c'est séparer. Séparer, ça veut dire pouvoir distinguer les objets, pouvoir distinguer les morphologies, ne pas faire de confusion entre différents objets. Et donc, ça, c'est aussi important. Et en général, plus un télescope sera de grand diamètre, et plus il pourra assurer cette fonction de séparation. Alors, je l'ai illustré ici en vous montrant une image obtenue du centre de notre galaxie, qui est obtenue ici en imagerie, je dirais, classique, avec un imageur absolument normal, à travers l'atmosphère, donc à travers notamment la turbulence atmosphérique. Donc vous voyez, on distingue pas mal d'étoiles, c'est un tout petit champ, hein, pas mal d'étoiles vers le centre de notre galaxie. Mais lorsqu'on va faire fonctionner un système dont je parlerai tout à l'heure, l'optique adaptative, ben vous voyez comme la résolution devient bien meilleure, on distingue beaucoup mieux les choses, on va séparer les objets, et on compte donc beaucoup plus d'étoiles, des objets beaucoup plus faibles, on va pouvoir faire des études beaucoup plus précises. Enfin, analyser, ça c'est très important, c'est essentiel. L'imagerie, c'est bien, il faut pouvoir voir les morphologies, distinguer les objets, mais analyser, décomposer la lumière en spectre, c'est essentiel, car c'est vraiment cette fonction qui va livrer, je dirais, l'information sur les propriétés physiques. Alors, un graphe comme celui-ci, en fait, représente ce qu'on appelle un spectre. Un spectre, on a décomposé la lumière et on analyse l'intensité de la lumière en fonction de la longueur d'onde de façon très fine. Et en fait, un spectre tel que celui-ci, qui est un spectre d'un objet donc lointain, un quasar, eh bien, nous livre beaucoup d'informations. D'abord, il nous livre une information sur le fait que dans ce quasar très lointain, donc qui correspond disons, à un univers extrêmement jeune, eh bien, on observe déjà des raies du carbone, c'est-à-dire ces creux qui indiquent qu'il y a déjà du carbone dans ces objets. Donc s'il y a eu du carbone, c'est qu'il y a eu déjà des étoiles qui ont formé ce carbone. Donc ça, c'est une information importante. Et puis également, ce qu'on observe là, c'est un spectre qui est décalé vers le rouge. Je pense que vous avez dû entendre parler de ça. C'est comme ça qu'on mesure la distance des objets, en mesurant le décalage Doppler, le décalage vers le rouge. Et donc, ce spectre nous donne exactement la distance nous donne une très bonne idée de la distance de l'objet qu'on mesure par ce paramètre Z ici, et qui indique donc le décalage vers le rouge, et qui nous indique que c'est un objet très distant. Donc, en fait, cette information physique est essentielle en général. Alors, pour terminer, je dirais un peu sur les généralités sur le rayonnement électromagnétique, parlons un peu des mécanismes d'émission. Alors, en gros, il y a deux familles. L'une, c'est l'émission thermique, c'est-à-dire celle qui est liée en fait à l'agitation des particules, que ce soit des électrons, que ce soit des atomes, et bien leur agitation va produire un certain rayonnement. Alors là, j'ai fait une petite animation qui montre un peu cette agitation de ces molécules, ces anneaux. Là, ça sera un gaz, disons, qui s'agite, qui rentre en collision. Et plus la température est élevée, et plus ces corps, donc chauds, en fait, vont émettre de rayonnement à courte longueur d'onde. On l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier grand mécanisme. Et puis un deuxième mécanisme, qu'on appelle mécanisme donc non thermique, en fait, correspond à l'émission de rayonnement électromagnétique par des particules chargées qui spiralent dans un champ magnétique. Alors là, j'ai symbolisé, si vous voulez, un champ magnétique qui serait dans cette direction, et puis des particules chargées, des électrons ou des ions, qui vont donc spiraler, simplement par l'effet de la force de Lorentz, la force magnétique, ils vont spiraler autour de ce champ magnétique, et ce mouvement de spirale, eh bien, ils vont émettre un rayonnement qu'on appelle cyclotron, ou voire synchrotron lorsqu'il est extrêmement énergétique, ce qui arrive. Donc ça, ce sont disons, les deux grandes familles. Alors, je vais donc maintenant développer un petit peu, je dirais, trois exemples où j'ai choisi trois domaines. Bien entendu, le domaine du spectre électromagnétique, vous l'avez vu, 10^21, c'est beaucoup. Il n'était pas question de tout examiner. Donc, j'ai pris trois domaines où, notamment, les Européens, disons, ont particulièrement été brillants en développant des instruments. Alors, le domaine des rayons X. Donc là, les rayons X, c'est typiquement, je dirais, un nanomètre de longueur d'onde, 10^9 mètres. Donc, et puis, ça sera donc le satellite XMM qui va illustrer mon propos. Le deuxième, c'est le domaine, je dirais, du visible et de l'infrarouge proche, donc à peu près une longueur d'onde de 1 micromètre. On a fait un saut d'un facteur 1000, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et puis, le domaine ensuite du millimétrique, donc des longueurs d'onde de 1 mm, 10^-3 mètres, où là, on a encore fait un saut d'un facteur 1000, où j'illustrerai donc ce que sont les interféromètres de l'IRAM et le futur interféromètre ALMA. Alors, le domaine des rayons X et le satellite XMM. Donc, les rayons X, en fait, du point de vue de la physique qu'ils permettent d'aborder, eh bien, ils témoignent toujours de phénomènes extrêmement énergétiques. Hein? Alors, il y a plusieurs exemples, et j'en ai choisi trois. Hein? Le gast qui est très chaud dans les amas de galaxies, je vais y revenir, les restes de supernovae, et les étoiles binaires avec un disque d'accrétion. Alors, en fait, dans les amas de galaxies sont des, comme leur nom l'indique, hein, des amas, c'est-à-dire les galaxies sont rassemblées dans une petite région du ciel, petite, bien sûr, à l'échelle astronomique, petite région du ciel, et vous voyez ici un exemple typique d'un amas de galaxies, l'amas de Coma, qui est très connu, où vous rendez compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de galaxies dans ce champ relativement petit, avec notamment une énorme galaxie très, très massive, une galaxie dite CD, au centre de l'amas. Et on ne voit pas grand-chose d'autre que ces galaxies. Mais en fait, il existe, disons, au cœur de cet amas de galaxies, du gaz extrêmement chaud, extrêmement dilué également, qu'on ne peut observer que grâce justement aux rayons X. Et si vous reportez, si vous observez donc avec un satellite comme XMM cet amas de Coma, eh bien vous allez distinguer en fait une énorme émission de rayons X qui est centrée à peu près sur cette galaxie, mais qui la déborde largement et qui correspond en fait à l'émission d'un gaz très chaud, du gaz qui est à 50 millions de degrés Kelvin. Donc c'est un gaz terriblement chaud, terriblement dilué également, dont on ne sait pas encore aujourd'hui bien retracer l'origine. Probablement, c'est sûrement lié à la formation, à la période de formation des galaxies, à la période, disons, où les galaxies sont entrées en collision, ont fusionné les unes dans les autres, comme par exemple pour donner la grande galaxie centrale. Et donc actuellement, c'est un sujet très très riche d'essayer de comprendre l'origine de ce gaz extrêmement chaud. Les restes de supernovae. Vous savez que le destin d'une étoile qui est suffisamment massive, disons plus massive que 8 fois la masse de notre Soleil, eh bien, c'est d'exploser. Donc, d'exploser dans un flash extraordinairement lumineux, pratiquement aussi lumineux qu'une galaxie, qui donc est ce qu'on appelle une supernova. Et dans cette explosion, eh bien, l'étoile va éjecter donc, toute la matière qui l'a composée, qui va donc créer une bulle qui va se dilater avec une vitesse formidable, et cette bulle va donc entrer en collision avec le milieu interstellaire, le gaz qui était autour de cette étoile, et produire donc des régions, vous voyez, très tourmentées, très turbulentes, avec là encore un gaz extrêmement chaud. Et donc cette image-là est une image obtenue par XMM, justement, sur un tel reste de supernova qui doit être la supernova du crabe, qui correspond à une supernova qui avait été observée donc, il y a plusieurs siècles. Enfin, un troisième phénomène, les disques d'accrétion. Alors, les disques d'accrétion, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce sont lorsqu'on a deux étoiles, un système binaire d'étoiles, dont l'une est une géante. Alors, une étoile géante, c'est vraiment beaucoup plus gros qu'une étoile normale. C'est typiquement 100 fois plus gros. Une étoile, lorsque le Soleil deviendra une étoile géante, c'est ce qui arrivera dans quelques milliards d'années, eh bien, son rayon atteindra le diamètre de l'orbite de la Terre. Donc l'orbite de la Terre sera inclus à l'intérieur donc, du diamètre de cette étoile. Donc cette étoile donc, va occuper une surface, un volume très très important, à tel point qu'il va atteindre un point qu'on appelle un point de Lagrange, peu importe, et qui va se comporter un peu comme un entonnoir où la matière finalement qui compose l'étoile va pouvoir se dévider, se déverser plutôt sur l'autre étoile. Donc l'autre étoile est ici. Imaginez que voici la géante dont on ne voit qu'une partie ici, et elle va se déverser par cet entonnoir cette étoile. Alors elle se déverse en fait en formant ce qu'on appelle un disque d'accrétion, hein, qui est également illustré ici de façon peut-être plus schématique, c'est-à-dire qu'à cause de la conservation du moment angulaire, qui est un grand principe de mécanique, eh bien, cette matière ne va pas se précipiter directement sur la petite étoile, mais va spiraler, et puis il va y avoir des phénomènes de friction qui vont faire que finalement, cette matière va arriver suffisamment près de l'étoile et être emportée par un champ magnétique qui va la précipiter sur la petite étoile. Là. Et c'est là où on va obtenir des vitesses extraordinairement élevées et donc la production de rayons X aussi, de rayonnement X, qu'on observe donc très bien avec un satellite comme XMM. Alors, ce satellite, eh bien, c'est un satellite donc, de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA, qui a été lancé il y a maintenant un petit peu plus d'un an et qui ressemble à ça. Alors, on pourrait croire qu'on a ici trois tuyères de fusée, mais non, pas du tout. C'est le télescope, c'est l'entrée du télescope. Voilà une autre vue, où là encore, il ne s'agit pas d'éjection de tuyères, mais c'est plutôt l'arrivée du rayonnement qui rentre dans le télescope. Alors, ce satellite, est en fait, qui a donc été lancé en janvier 2000, est vraiment de grande dimension. Vous voyez, on se rend compte de la taille ici. Et sa particularité, donc c'est ce qui donne son nom, XMM, c'est veut dire X multimirror, c'est d'avoir une structure d'oignon. Alors, je vais m'expliquer. Voilà à quoi ressemble le télescope. Alors, vous voyez, ça ne ressemble pas vraiment du tout à un télescope classique. On ne voit pas un miroir, on voit simplement des feuillets agglomérés. Et le principe est le suivant. C'est qu'en fait, les rayons X, comme chacun le sait, en allant passer une radio, eh bien, traversent en fait la matière très facilement. Donc, si on avait un simple miroir, eh bien, comme un télescope classique, il serait directement traversé. En fait, les rayons X vont pouvoir commencer à se réfléchir lorsqu'on va attaquer à des incidences très très grandes, hein, lorsqu'on va arriver en rasant sur la surface du miroir. Et donc, on va mettre à profit cette propriété en utilisant des combinaisons de paraboles et d'hyperboles que je représentais ici. Vous voyez, si on a ici donc une parabole, en fait, et puis le photon X qui arrive, eh bien, il va se réfléchir une première fois parce qu'il arrive sous incidence très très rasante, il va pouvoir se réfléchir. Puis une deuxième fois sur une hyperbole, peu importe que ce soit une hyperbole d'ailleurs, tout ça pour converger sur un foyer unique. Un foyer unique qui sera donc à ce point-là. Alors, vous voyez que du coup, ça veut dire que la surface, je dirais, vue de l'extérieur, ben, est toute petite. Ça correspond finalement à cette toute petite surface-là. Alors l'idée, ben, ça a été simplement de multiplier ces surfaces. Donc si on en rajoute une deuxième parabole, puis une deuxième hyperbole bien calculée, ben, on va faire converger au même endroit en fait, les rayons X. Et donc on empile comme ça, on empile en fait 52 couches de ce type-là. Alors bien sûr, mon dessin est très très mal représenté. En fait, notre parabole, on voit à peine l'angle et l'hyperbole également. Et donc, on va produire quelque chose qui ressemble grosso modo à un cylindre, qui ressemble à ça, mais avec tous les différents feuillets qui sont, les différents cylindres qui sont dirigés comme ça, donc le rayonnement entrant donc entre ces feuillets. Alors, les détecteurs de XMM, eh bien, en fait, ils n'ont rien de très particulier puisque ce sont des CCD. Des CCD comme vous en trouvez dans votre caméscope ou dans votre appareil photo numérique, CCD pour Charge Coupled Device. Donc ce sont des capteurs finalement à peu près ordinaires, pas tout à fait, on les a un peu modifiés quand même, on les fait fonctionner à basse température, mais ils ressemblent finalement à un CCD. Si vous démontez votre caméscope, vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça, et puis on va les refroidir à relativement basse température pour limiter ce qu'on appelle le courant d'obscurité, et donc on obtenait une caméra X, ben voilà à quoi ça ressemble. Elle se trouve donc derrière, à l'arrière du télescope XMM. Alors, oui, une différence quand même notable avec un CCD classique, c'est que les CCD classiques vont détecter justement des photons. Un photon de lumière va créer un électron et c'est lui qui va être amplifié qu'on va observer. Là, un photon X, beaucoup plus énergétique, va créer en fait une ribambelle, un paquet d'électrons qui sera stocké dans les pixels du CCD et puis ensuite lu comme on lit normalement, je dirais, un CCD dans un appareil photo numérique. Alors, le deuxième domaine que j'ai voulu donc aborder, c'est celui du visible, qui reste malgré tout, malgré mon introduction, extrêmement important, bien entendu. Alors, quand je dis le domaine visible, c'est le domaine visible, je dirais, et de l'infrarouge proche. Et donc, j'ai choisi de l'illustrer avec ce très bel équipement qui est le Very Large Telescope. Alors, c'est un domaine de longueur d'onde, donc du spectre électromagnétique, qui correspond aussi à des énergies, je dirais, intermédiaires. Alors, les énergies intermédiaires, ça va être, ou des températures intermédiaires, ça va être, par exemple, la température de surface des étoiles et, donc, et des galaxies. Ça va être aussi, quelque chose de très important, le rayonnement du gaz ionisé. Le gaz ionisé, c'est du gaz donc, qui a perdu ses électrons. Je vais y revenir. Puis aussi, le rayonnement, tout bêtement, réfléchi par les planètes, donc du rayonnement d'étoiles, mais réfléchi par les planètes. Alors, la lumière des étoiles, voilà une illustration. Donc ça, c'est notre Soleil, observé donc à une certaine longueur d'onde, donc une belle image, on voit les taches solaires. En fait, l'intérieur du Soleil, lui, il est habité par du gaz qui a une température de plusieurs dizaines de millions de Kelvin. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on observe, en fait, ce qui est émis par le Soleil, c'est une petite couche qu'on appelle la photosphère, petite couche de quelques centaines de kilomètres, ce qui est très petit par rapport au diamètre du Soleil, et qui correspond donc à une température, alors suivant les étoiles, mais comprise entre 4000 et disons 40000 degrés Kelvin, notre Soleil étant à peu près à 6000 degrés Kelvin. Et donc c'est juste cette émission de cette petite couche qu'on observe, celle qui provient des profondeurs, est complètement absorbée sans arrêt et finit simplement par émerger pour alimenter cette petite couche. Et puis les galaxies, eh bien une galaxie, c'est un équidote, ce n'est rien d'autre qu'une collection d'étoiles, 100 milliards d'étoiles à peu près. Et donc, ce qu'on va observer quand on observe une galaxie dans le visible, eh bien c'est simplement la superposition du rayonnement donc, de toutes ces étoiles. Et puis, on observe aussi quand même quelque chose d'important, c'est vous voyez, l'absorption par les poussières dont je vous parlais tout à l'heure, notamment pour notre galaxie, eh bien, ces poussières qui sont des petits grains, des petites particules qui vont absorber le rayonnement, et là, qui, eux, bien sûr, ne contribuent pas à l'émission dans le domaine visible. Puis enfin, les surfaces planétaires, disons que ça, c'est des images plus familières. Lorsqu'on observe quelque chose, un objet comme Saturne, eh bien, ce qu'on observe, c'est la réflexion de la lumière du Soleil sur la surface, mais aussi, en fait, dans le domaine infrarouge, une planète va émettre, comme tout corps, quelle que soit sa température, va émettre une certaine émission. Donc Saturne, qui est à peu près à 50 degrés Kelvin, eh bien, va émettre des longueurs d'onde plutôt dans le domaine infrarouge, enfin même carrément dans le domaine infrarouge, ou un corps comme Titan, qui est observé ici en optique adaptative, eh bien, qui révèle ici des brumes de méthane, va émettre ici, alors ça a des longueurs d'onde qui sont mixtes, je dirais, entre l'émission réfléchie du Soleil et puis la propre émission de la planète. Deuxième mécanisme d'émission dans le visible et l'infrarouge proche, le gaz ionisé. Alors en fait, c'est quelque chose qui rend simplement à ce qu'on observe dans les tubes néons. Les tubes néons, ce n'est rien d'autre que du gaz ionisé, du plasma, et lorsque les atomes qui sont excités, donc les ions qui sont excités, lorsque des électrons se recombinent avec ces ions, il y a une désexcitation qui va émettre un rayonnement, exactement comme dans un tube, et donc qui va produire en fait cette émission qu'on observe, par exemple, dans des régions comme la région d'Orion ici, où ce rayonnement, c'est du gaz, simplement du gaz ionisé. Alors pas tout, en fait c'est le rayonnement rouge que vous observez ici, la partie rouge, je veux dire, je suis un peu ébloui, je ne vois pas très bien, mais vous devez voir une partie rouge du gaz. Ça, c'est vraiment le rayonnement ionisé. Le rayonnement qui est plutôt bleu, en fait, c'est du rayonnement qui se réfléchit, la lumière des étoiles qui se réfléchit sur des petites particules, les fameuses poussières. Et disons, tout ce qui est vraiment très rouge ici, c'est du gaz ionisé. De même, dans ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires. Donc, attention, le mot prête à confusion. Il faudrait vraiment que les astronomes songent à le changer un jour. Ça n'a rien à voir avec des planètes. Parce qu'au début, cette apparence bizarre fait penser que ça peut être des systèmes planétaires, mais c'est du gaz autour d'une étoile extrêmement chaude. Là encore, c'est la fin de la vie d'une étoile. Une étoile qui a éjecté donc une grande masse, une grande quantité de sa masse, et puis il n'en reste qu'un cœur à 100 000 Kelvin au moins, et puis qui va donc produire des rayonnements extrêmement énergétiques qui vont ioniser le gaz. Et donc, cette émission rouge, justement, correspond à la recombinaison du gaz, à cette désexcitation, je dirais, du gaz. Et puis, alors, là aussi, l'excitation de ce gaz, elle peut se produire dans des objets particuliers qu'on appelle les noyaux actifs de galaxies, où là, c'est probablement un trou noir, on en est même quasiment certain, disons, un trou noir sur lequel se précipite de la matière, qui est capable donc de produire des jets extrêmement puissant, et ces jets, en heurtant le milieu interstellaire, va aussi l'ioniser et donc va être capable de produire donc ce rayonnement de désexcitation. Alors là, il s'agit d'une blessure d'un dessin d'artiste. Alors, qu'est-ce qu'est donc le Very Large Telescope? eh bien, c'est, disons, le grand projet des Européens actuellement dans le domaine du visible et de l'infrarouge proche. Et c'est donc une réalisation donc, qui a été faite par, disons, par plusieurs pays européens au sein, donc, qui sont regroupés au sein du European Southern Observatory, l'ESO, et donc qui a permis de développer donc, 4 télescopes de 8 mètres de diamètre, donc donnant finalement une surface équivalente à un télescope de 16 mètres, ce qui en fait l'un des télescopes, en tout cas des sites les plus puissants au monde, si ce n'est le plus puissant au monde, et qui est installé donc au Chili, sur le mont Paraná, dans un site extrêmement aride, extrêmement sec, simplement pour pouvoir bénéficier à la différence de ce qu'on observe aujourd'hui, d'un climat propice à l'observation la plupart des jours de l'année. Alors, ce qu'on peut noter notamment, donc ça, ce sont les 4 dômes, qui ont des formes particulières, on oublie maintenant un peu les dômes en demi-sphère, les dômes hémisphériques, et là, ce sont des dômes donc particuliers. Et en fait, ces 4 télescopes sont équipés chacun de ce qu'on appelle 4 foyers. C'est-à-dire la lumière peut converger à 4 endroits différents. Et donc, on peut installer 4 instruments par télescope, ce qui produit finalement 16 instruments potentiels. Alors, actuellement, il n'y a pas encore 16 instruments. Les 4 télescopes sont en opération. Tous ont vu ce qu'on appelle leur première lumière. Mais déjà, beaucoup d'instruments sont installés. Alors, parlons quand même un petit peu justement du télescope et du collecteur. D'abord, le télescope, voilà à quoi il ressemble. Donc, un télescope de 8 mètres, ça commence à devenir très impressionnant. Ça ne ressemble plus tellement au télescope dont on a l'image classique. Donc, l'échelle vous est donnée par le personnage ici. Et le miroir, en fait, se trouve à cet endroit-là, oui, au sein de cette cellule très complexe, qui était d'ailleurs réalisée en France par le GIAT, et qui donc supporte ce miroir. Alors, ce miroir, en fait, c'est un miroir relativement mince. C'est la nouvelle technologie, disons, de ces télescopes. Ce sont des miroirs donc, dont on contrôle la surface lorsque le télescope bouge, le miroir va se déformer, et donc on va contrôler sa surface par une armada de pistons qui se trouvent donc sous le miroir du télescope, donc dans cette région-là. Et voici donc le télescope qui a été donc poli par la société Reos, là dans le sud de Paris, donc qui est devenu vraiment le plus grand, je dirais, polisseur de grands télescopes au monde, puisqu'ils ont poli ensuite beaucoup d'autres télescopes. Donc vous voyez cette qualité superbe de télescope, mais un miroir relativement mince pour sa taille. Alors, l'instrumentation du VLT, il n'était pas question de vous parler de tous les instruments possibles, tous les instruments qui ont été développés pour le VLT, donc j'ai choisi quelques instruments, parce que d'abord, je pense qu'ils sont originaux, et puis aussi parce qu'ils ont été de réalisation française. Alors, autant pousser un petit cocorico de temps à autre. Donc, je vais vous parler un peu d'abord des spectrographes multi-objets. Alors, les spectrographes multi-objets, c'est une façon, en fait, d'utiliser de manière optimum le champ de vue des télescopes. Un spectrographe, c'est quoi ? Un spectrographe, c'est quelque chose qui permet d'analyser la lumière, donc de la décomposer, comme ce que j'ai montré tout à l'heure, pour obtenir un spectre. Un spectre qui va permettre donc de donner des informations physiques sur l'objet qu'on observe. Mais finalement, traditionnellement, le spectrographe avant, on mettait une petite fente sur l'objet qui nous intéressait, et puis ensuite on avait l'équipement, le spectrographe lui-même, qui permettait donc de faire cette analyse. Et vous voyez, on gâchait quand même pas mal de lumière venant de tout le reste du champ. Et donc là, l'idée, ça a été d'essayer de développer des spectrographes qui permettent simultanément d'observer et de mesurer, donc de décomposer cette lumière sur un grand nombre d'objets. Alors, il y a 2 instruments qui ont été développés, l'un qui s'appelle VIMOS, l'autre Giraffe, tous deux par des équipes françaises, majorité française, j'ai souvent des collaborations européennes, et qui utilisent 2 concepts différents, donc que je vais vous développer un petit peu. Alors d'abord, l'idée, c'est le spectrographe multi-objet à masque. Alors, toujours, on reprend notre même champ, donc ça, c'est un champ de galaxies, un amas de galaxies, là encore. Et puis, sur cette image qui se forme donc, au foyer du télescope, eh bien, on va déposer un masque. Un masque qu'on va réaliser de cette façon, c'est-à-dire en découpant des petites fentes dans une plaque, des petites fentes qui vont, elles, se positionner précisément, parce qu'on a fait d'abord un cliché, précisément donc sur les objets qui nous intéressent. Donc vous voyez ici ces fentes, ces différents centres. Et puis on va les positionner de façon astucieuse, de façon que lorsque ensuite on va décomposer la lumière par le spectrographe, eh bien on va obtenir par exemple le spectre de cet objet qui est ici, qui va donner ça. Alors j'ai dessiné là des raies d'absorption qu'on observe traditionnellement dans un spectre, et puis un autre ici, un autre spectre, et puis chacun donc de ces petites fentes va donner un spectre, et on a disposé astucieusement les masques pour qu'il n'y ait pas superposition de ces différents spectres. Alors, le spectrographe VIMOS, donc qui est construit donc en grande partie notamment par le laboratoire d'astrophysique de Marseille, ressemble à ça. Alors déjà une première chose, c'est que on voit que les instruments modernes, des grands télescopes, n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 15 ans, où on manipulait des instruments qui étaient de quelques kilos, quoi. On transportait sa petite caméra sur le télescope, un télescope même de 3,60 m, c'était des objets, disons, qu'on pouvait manipuler, qu'un homme ou deux pouvaient manipuler facilement. Là, c'est fini. Avec les grands télescopes, on arrive dans l'ère vraiment des très gros instruments. C'est un instrument comme celui-ci de peser probablement plus de 3 tonnes. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très massif. Alors, on observe simplement là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça correspond donc au fameux champ sur lequel on va mettre les masques. Ces parties vertes sont les parties sur lesquelles on va monter les masques. Bon, alors, je ne vais pas détailler le schéma optique, peu importe, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que d'une part, pour éviter de développer des optiques qui seraient colossales, c'est ça le problème, si vous voulez, des très grands télescopes, c'est que toute l'optique qui va suivre après pour les instruments est gigantesque. Ça, c'est un principe d'optique contre lequel on ne peut pas lutter. Alors, l'astuce, là, a été de découper, en fait, le champ de vue de notre amas de galaxies en 4 ici, de façon à pouvoir, par une petite astuce optique, disons, pouvoir manipuler ensuite des composants optiques qui sont des lentilles ici beaucoup plus petites. Beaucoup plus petites. Et donc, on va reformer pour chacun ces champs, on va reformer donc une image et puis ensuite faire obtenir le spectre directement au bout de ces trains d'optique. Alors, le spectrographe IMOS est en fait un spectrographe dit à basse résolution, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à décomposer la lumière de façon très 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 fine, mais de façon plutôt un peu grossière, simplement parce qu'on s'intéresse à des objets extrêmement faibles, des galaxies très très lointaines, pour lesquelles on a quand même, malgré la taille du télescope, on n'a pas beaucoup d'énergie. Alors, bon, ça c'est encore une autre vue, disons, toujours de ce fameux champ où on va déposer les masques. Et alors, les masques, comment est-ce qu'on les réalise? Eh bien, en fait, on utilise un laser, donc très très précis, qui est piloté et qui va donc découper ces petites fentes sur cette grande plaque et on va mettre en position la plaque. Donc la procédure, c'est d'abord de faire un cliché, par ordinateur repérer les objets qu'on va vouloir observer, puis ensuite envoyer à la machine, au laser, les instructions pour découper ces petites fentes. Et à la fin, eh bien, voici une simulation, parce que l'instrument n'est pas encore en opération, il le sera dans quelques mois, même pas. Voici une simulation de ce que seront finalement les spectres, ce que je vous en ai présenté deux tout à l'heure. Eh bien là, vous voyez une collection de spectres qui tapissent tout le détecteur. Et donc, on a observé beaucoup d'objets, plus d'une centaine d'objets. On a un très, très, très bon rendement d'observation. Là, vraiment, on utilise bien, l'argent que l'État nous a donné pour développer ces télescopes, puisqu'on utilise vraiment toute la lumière, enfin, au mieux, la lumière qui arrive du télescope. Alors, un autre principe, toujours pour développer des spectrographes multi-objets, eh bien, c'est d'utiliser des fibres optiques. C'est une autre technique qui a ses avantages et ses inconvénients, chacune à son domaine, je dirais. Et donc là, on va simplement positionner des fibres optiques. Alors, des fibres optiques, eh bien, ce sont des guides de lumière, c'est des tuyaux à lumière, si je puis dire, qu'on va mettre, donc positionner toujours sur ce champ, sur les objets qui nous intéressent, et puis ensuite, on en va envoyer donc dans le spectrographe la lumière qui a été ici bien isolée, bien séparée pour produire donc les spectres des objets qui nous intéressent. Alors bien entendu, on va multiplier ce nombre de fibres optiques et c'est donc le spectrographe Girafe qui est développé à l'Observatoire de Paris et bien, qui utilise ce principe. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail du schéma optique, c'était juste pour une illustration. Ça ressemble à un spectrographe, vous en avez sans doute jamais vu, un spectrographe ça ressemble un peu à ça, il y a beaucoup d'optiques, un réseau et ce qui est important c'est que en fait, on doit faire arriver la lumière sous forme d'une petite fente. Et donc, ces fibres optiques, ces faisceaux de fibres optiques, ici, vous voyez qu'on va découper donc, l'objet qu'on observe, on va mettre un certain nombre de fibres optiques, j'arrive plus à très bien voir d'ici, mais enfin, disons une petite douzaine de fibres optiques qui vont échantillonner notre objet. Elles vont arriver donc par ce faisceau, elles vont arriver jusqu'au spectrographe, mais en fait, on peut les aligner après ça le long d'une fente. Et donc, on va créer une petite fente, la fente de spectrographe, qui va permettre de produire autant de spectres qu'il y a de fibres optiques. Et donc, là encore, on a une excellente utilisation donc, de ce spectrographe. On va observer simultanément des dizaines d'objets. Alors là, ce spectrographe, lui, en revanche, va permettre d'avoir une bien meilleure résolution spectrale, c'est-à-dire une analyse très très fine de la lumière, et il va s'intéresser à des objets plus proches, des galaxies plus proches, notamment. Bien, alors, deuxième type d'instrument que j'ai choisi de vous présenter, c'est l'optique adaptative. Je pense que Pierre Lena, si vous revenez à la conférence de Pierre Lena, vous développera beaucoup plus cette thématique, mais dans la mesure où c'est quand même un instrument qui a été développé par notre équipe, je voulais en parler un petit peu, parce que c'est quelque chose de vraiment original, et je crois que la France a acquis une position très forte. Alors, le nom de l'instrument, c'est Naos Konica. Naos, disons, c'est plutôt le système d'optique adaptative, et puis Konica, c'est la caméra. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on observe avec un télescope, alors là, qui est symbolisé simplement par une lentille, hein, mais bon, dans la réalité, c'est un miroir, mais peu importe, ça ne change pas les choses. Si on a une belle onde plane qui arrive d'un objet lointain, eh bien, elle va être focalisée, et elle va produire donc une tache extrêmement fine, pas infiniment fine, mais en fait, dont la finesse est simplement donnée par le diamètre du télescope. Elle est inversement proportionnelle au diamètre du télescope. Donc, plus le télescope est grand, plus la finesse de la tâche est grande, et donc plus on va pouvoir séparer des objets, on va pouvoir avoir une résolution excellente, une très bonne acuité. Bon, mais ça c'est la réalité, je dirais, théorique. Enfin, c'est la théorie, et la réalité, c'est qu'en fait, il y a une atmosphère, et que l'atmosphère va brouiller, en fait, ces images. Alors, elle va brouiller ces images par des effets simplement de température, les toutes petites fluctuations de température de l'atmosphère, mais vont un petit peu, très légèrement, distordre ces fronts d'ondes. Vous voyez, donc, ils deviennent distordus ici. Et puis, donc, cette distorsion va se traduire par le fait qu'on va obtenir non plus une image extrêmement fine, mais une image éclatée qui va bouger dans tous les sens. Alors, bien sûr, ça reste quand même quelque chose. Je veux dire, si on mettait l'œil, d'ailleurs, on le voit très bien à l'œil, hein, ce phénomène qu'on appelle les tavelures ou les speckles, eh bien, vont quand même faire perdre beaucoup de la qualité qu'on aurait pu avoir si le télescope observait sans atmosphère. Alors, comment s'affranchir de ça? Bien, c'est justement le but de l'optique adaptative. Donc, ça a été inventé, disons, dans la fin des années 80 et mis en pratique pour la première fois donc, par des équipes françaises, où l'idée, simplement, d'avoir un miroir déformable, à la sortie du télescope, avant le foyer final du télescope, qu'on va déformer très, très rapidement, de façon à compenser exactement les déformations du front d'onde et reconstruire, si je puis dire, l'image, le front d'onde de plan. Alors, on va prélever une petite partie de cette lumière, de ce rayonnement, pour pouvoir, avec un senseur qui va mesurer les petites erreurs résiduelles, on va les envoyer un calculateur ultra rapide qui va calculer tout ça, calculer la commande à renvoyer au miroir pour corriger, etc. Donc, ça s'appelle un asservissement et ça fonctionne remarquablement bien. Du coup, ils ont ensuite le principal de la lumière, alors généralement c'est à une autre longueur d'onde, et bien dirigé du coup, peut-être focalisé vers le foyer du télescope et à nouveau rétablir la performance très très fine donc de qualité d'image qu'on peut obtenir. Donc nous avons développé un tel instrument d'optique adaptative pour l'un des télescopes du VLT, alors c'est NAOS, donc qui est un acronyme pour NASMIS Adaptive Optics System. NASMIS, c'est le nom du type de foyer auquel on va s'installer. Et là, vous voyez, là encore, c'est un énorme instrument. Hein. Il est installé sur une grande plateforme. Le diamètre de cet instrument, bien, c'est à peu près 3 mètres ici, donc c'est quelque chose qui fait plusieurs tonnes. Il a fallu, pour nous, si vous voulez, les astronomes, développer ce type d'instrument est devenu un peu une aventure, un peu nouvelle, de manipuler de tels objets. Et ça demandait maintenant d'acquérir des techniques de réalisation pratiquement de nature industrielle, ou en tout cas tout à fait proche des techniques qu'on utilise dans le domaine spatial. Alors ça, c'est donc une vue, je dirais, technique de ce qu'est NAOS. Donc, bon, alors NAOS, en fait, la partie principale, la partie qui était rattachée sur le télescope, eh ben, ça ressemble à ça, toujours une vue technique. Et puis là-dedans, vous avez un miroir déformable qui est à cette position. Peu importe, on va pas rentrer dans les détails. Disons, il y a de l'optique essentiellement, hein, des miroirs qui renvoient le faisceau dans deux directions, qui permet d'analyser le faisceau. Et puis donc un miroir déformable, en fait deux en réalité, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Et donc un miroir déformable qui est ici, donc qui est réalisé par une société française, Silas, là encore dans la région parisienne, et puis un ensemble d'optiques, et qui va permettre donc d'obtenir cette correction. Alors les propriétés donc de NAOS est d'avoir un miroir déformable qui comporte 185 actionneurs, c'est-à-dire 185 petits moteurs, ça vous les poussoirs, qui permettent de déformer le miroir. Alors quand je dis déformer, soyons bien clairs, c'est des toutes petites déformations. À l'œil nu, elles sont strictement imperceptibles. Hein, ce sont maximum quelques microns, mais en fait souvent inférieurs aux microns. Et puis il comporte deux analyseurs de front d'onde, ce qui permet de mesurer les petites erreurs pour réinjecter les corrections. Deux, pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui travaille dans le domaine infrarouge, qui permet, disons, d'accéder à des objets qui seraient sinon invisibles, sur lesquels on ne pourrait pas travailler. Et puis, alors, il va faire un nombre de corrections important, jusqu'à 670 corrections par seconde. Donc, vous voyez, il a besoin d'avoir des calculateurs très rapides, très spécialisés. Et les performances, eh bien, donc, on montre, disons, que c'est dans l'infrarouge qu'on va avoir les meilleurs résultats. Donc, c'est essentiellement à 2 microns qu'on aura les meilleures performances, en améliorant plus d'un facteur 40, en fait, le piqué des images. C'est-à-dire qu'on retrouve le piqué que permettait le télescope, alors que l'atmosphère l'avait dégradé d'un facteur 40. Ça, c'est, je parle du diamètre des images. Donc, en énergie, c'est un facteur 40 au carré qui va être gagné. Et donc, NAOS sera installé très, très prochainement, dans quelques semaines maintenant, sur l'un des télescopes du Paranal. Et donc, va commencer à produire des résultats dans quelques mois. Alors, une retombée, quand même, qui est importante, parce que je crois qu'il faut aussi, il faut bien voir que le développement de cette technique de pointe, que ce soit du côté des détecteurs, mais aussi de l'optique adaptative, par exemple, hein, c'est un des exemples, eh bien, ont des retombées aussi qui vont vers, je dirais, le domaine public. Alors, une de ces retombées, c'est le projet EIL. Je pense que Pierre Léna en parlera certainement, mais très brièvement, l'idée, c'était que, finalement, que l'œil, le l'humeur vitrée, enfin, disons, tout le milieu que constitue l'œil, est également un milieu déformant, un peu comme l'est l'atmosphère. Et donc, on ne peut pas faire de mesure d'image du fond de l'œil simplement à cause de cette déformation, exactement comme l'atmosphère brouille nos images. Et alors, donc l'idée était d'utiliser l'optique adaptative pour compenser exactement de la même façon le brouillage de ces images, et donc pouvoir faire des études in vivo, c'est ce qui était quand même l'intérêt, donc de la rétine notamment, pour pouvoir analyser par exemple les dégénérescences, comme la dégénérescence maculaire, qui est une maladie très grave qui va toucher de plus en plus la population, ou faire des études simplement neurologiques, de stimulation, donc des cellules du fond de l'œil, où on va pouvoir accéder à cette information. Donc il y a une expérience qui a été développée en collaboration, et donc qui est en partie à l'Observatoire de Paris. Et là, vous voyez une des premières images obtenues très récemment, donc de la rétine. Alors là, je ne me rends pas bien compte, si on devine quand même, on voit en principe, on distingue bien les petites cellules individuelles de la rétine, chacun des récepteurs, alors que jusqu'ici, il était absolument impossible d'obtenir de telles images qui étaient dégradées par, je dirais, presque un facteur 10 par rapport à ce type d'image. Et donc là, vous voyez bien une doctorante en train de mesurer, c'est Marie Glanc qui est en train de mesurer son propre œil, sa propre fond de rétine à travers cet équipement, donc qui utilise des développements de l'optique adaptative. Enfin, je vais aborder donc le dernier des domaines, le domaine millimétrique. Alors là, on franchit encore un saut d'un facteur 1000 en longueur d'onde. On arrive donc à une longueur d'onde de 1 mm, à peu près. Hein. Alors là, maintenant, on arrive dans le domaine des objets beaucoup moins énergétiques, des objets, je dirais, froids ou très froids, avec des températures typiquement entre 3 et puis 100 degrés Kelvin, donc 100 degrés absolus. Alors, quel type d'objets émettent à ces longueurs d'onde et ont ces températures ? D'abord, l'univers. Tout bêtement, l'univers, on l'a dit tout à l'heure, hein, on a vu que c'est le rayonnement principal, le rayonnement de l'univers, qui est à 2,7 degrés Kelvin, qui a été mesuré donc, notamment par le satellite Kobe de façon extrêmement précise. On ne peut pas distinguer, si vous voulez, les barres d'erreur sur la courbe qui s'ajustent parfaitement sur cette température. Eh bien, il était mis, essentiellement, disons, le maximum était mis à 1 mm, donc dans ce domaine. Il y a aussi le gaz et la poussière dont on a parlé tout à l'heure. Lorsqu'il n'est pas excité, lorsqu'il n'est pas ionisé, eh bien, le gaz est à peu près à une température de 30 degrés Kelvin, la poussière également. Ils vont donc émettre à des longueurs d'onde, alors un peu plus basse que le millimètre, mais toujours dans des longueurs d'onde relativement élevées. Alors ça, c'est ce qui illustre, disons, ce gaz, hein, ces énormes nuages à la fois de poussière et de gaz d'hydrogène pour l'essentiel, donc qui peuple un peu toutes les galaxies, et dont le télescope Hubble a fait une superbe image ici, où on voit en fait de la lumière d'étoiles qui se réfléchit sur les bords de ces nuages. Et puis, c'est le domaine millimétrique, c'est, je dirais, l'outil privilégié pour étudier les molécules. Il y a des molécules dans le milieu interstellaire, alors j'en ai représenté une particulièrement complexe, hein, qu'on appelle le foot baleine, mais de fait, on pense effectivement qu'une telle molécule qui est très résistante existe dans le milieu interstellaire, et j'y reviendrai juste dans quelques secondes. Enfin, ce qu'on peut noter, c'est que le rayonnement millimétrique également a le grand intérêt de ne pas être arrêté par les poussières, on l'a vu dans la présentation là, des différentes images de la galaxie, et donc il permet de sonder très très loin dans notre galaxie, donc de mesurer justement ces concentrations d'hydrogène, ces concentrations de poussière très très loin dans notre galaxie, d'avoir accès à la structure de notre galaxie, mais aussi des régions de formation d'étoiles. Les régions de formation d'étoiles sont toujours extrêmement riches en poussière. Si les étoiles finissent leur vie, je dirais, de façon extraordinaire, dans des feux d'artifice au vu et au su de tout le monde, en revanche, la naissance des étoiles se passe toujours de façon très discrète, dans des cocons de poussière, et en fait, dans le domaine visible, on ne peut rien voir. Et donc, l'observation dans le domaine millimétrique permet d'accéder à ces régions-là. Alors, par exemple, pour illustrer un peu, disons, ce que permet l'observation dans le domaine millimétrique pour mesurer des molécules, eh bien, ici, ce sont des mesures qui sont faites donc, dans différentes longueurs d'onde caractéristiques de molécules très, très, très particulières, hein, comme le SIC, le sulfure de carbone, etc. Et on voit en fait que ces molécules se forment ou sont abondantes, disons, dans des coquilles qui sont très différentes les unes des autres. En fait, il y a toute une chimie qui se passe dans ces coquilles. Alors ces coquilles, en fait, elles sont formées, disons, dans l'enveloppe de poussière, d'enveloppe de gaz, pardon, et de poussière d'ailleurs, enfin, de gaz qui est éjectée par une étoile en fin de vie. Alors ça, ce sont plutôt les étoiles, je dirais, plutôt peu massives, celles qui ne vont pas finir en supernova. Elles vont éjecter à la fin de leur vie une grande partie de leur masse, donc qui va se trouver sous forme, si vous voulez, de coquille, d'un volume de gaz autour de l'étoile. Et en fait, il y a toute une chimie très riche qui va se former à partir de tous les éléments qui ont été synthétisés par l'étoile durant sa vie, les éléments lourds, enfin, ce qu'on appelle les éléments lourds, le carbone, l'oxygène, etc., et le soufre, et qui vont produire toute cette chimie. Et donc, on voit tout à fait, on peut distinguer les différentes phases de la chimie, le processus de construction, je dirais, des molécules de plus en plus complexes, suivant dans différents mécanismes de chimie, grâce à cette analyse qui est faite dans le domaine millimétrique. Un autre domaine, c'est, par exemple, l'observation de galaxies très lointaines, de galaxies ou même d'objets comme les quasars, d'objets très très lointains. Alors là, bon, j'ai choisi un exemple qui était relativement récent. C'est l'observation en fait d'un mirage gravitationnel. Alors, pas question de rentrer dans le détail dans ce qu'est un mirage gravitationnel, mais en gros, disons, lorsqu'on a une grosse masse, elle est capable de dévier la lumière, on le sait, et produire donc parfois d'un même objet plusieurs images. Et notamment, il y a un exemple fameux qui s'appelle le trèfle à quatre feuilles, où un quasar, donc très lointain, un objet très lumineux et très lointain, son image est multipliée par 4. Donc on l'observe tout bêtement dans le visible, on peut l'observer, ça correspond aux 4 étoiles ici, 4 images alors, d'intensité différente, et dont l'analyse permet notamment d'ailleurs de déterminer quelle est la masse qui a permis de produire cette déviation. Enfin, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a observé dans le domaine millimétrique, dans une longueur d'onde caractéristique du gaz CO, qui est monoxyde de carbone, qui est un gaz aussi très abondant dans le milieu interstellaire, et on s'aperçoit que ce gaz est en fait tout à fait concentré également dans ce quasar, finalement c'est un quasar unique, il faut bien voir, dans ce quasar unique, très très près donc, de l'objet, de cet objet très, très lumineux. Or, ce quasar est extrêmement distant. Donc ce qu'on peut déjà déduire de ce type d'observation, c'est qu'il s'est formé du gaz CO, donc il y a eu du carbone et de l'oxygène, donc de la synthèse par des étoiles, des générations d'étoiles précédentes, qui ont permis de générer ce gaz, et donc on peut déjà comme ça remonter finalement à la trace, je dirais, de la formation stellaire dans le tout début de l'univers. Un tel objet, comme un quasar, vraiment correspond vraiment au, pas tout début, mais enfin disons, à un univers extrêmement jeune, et donc on peut comme ça remonter et comprendre la formation des étoiles dans l'univers très très jeune. Alors, donc les instruments dont l'Europe a mis en œuvre, et en fait c'est même le plus grand instrument dans ce domaine, dans le domaine millimétrique, qui est l'IRAM. Alors l'IRAM, en fait, c'est l'acronyme de Institute for Radio... L'Institut de Radioastronomie Millimétrique, oui. et donc en fait qui est le nom qu'on a donné également à l'instrument. Alors cet instrument est composé en fait de cinq antennes qui sont situées sur le plateau de Bure, donc dans les Alpes du Sud, et ces cinq antennes sont en fait connectées entre elles et elles produisent finalement, sans trop rentrer dans les détails, mais dans ce qu'on appelle en combinaison interférométrique, l'équivalent, ou du point de vue du pouvoir de séparation, de cette capacité donc à distinguer les détails, eh bien l'équivalent d'un télescope qui serait supérieur à un diamètre de 100 mètres. Et donc ça permet d'avoir des détails tels que celui que je vous ai présenté, qui a été obtenu effectivement avec un tel télescope. Alors ces antennes, quand même, chacune fait déjà 15 mètres de diamètre, donc ce qui correspond déjà à une surface tout à fait remarquable. Et donc je le disais, cet équipement est actuellement le plus performant des radiotélescopes dans le domaine millimétrique au monde et produit beaucoup de résultats. Et donc c'est une collaboration entre la France, l'Allemagne et à moindre degré l'Espagne. Alors, les récepteurs pour ce type de rayonnement, eh bien là, on n'est plus du tout dans le domaine des CCD ou des capteurs donc, je dirais, de photons un peu classiques. On utilise ce qu'on appelle des mélangeurs. Alors, un mélangeur, en fait, c'est une technique qui est assez vieille, je dirais comme la radio. Je pense que parmi vous, il y en a certains un certain nombre qui se souviennent parfaitement des détecteurs hétérodynes et super hétérodynes des années 50, hein, des récepteurs radio. Et où simplement on va utiliser une technique de mélange de fréquences. C'est-à-dire la fréquence qu'on cherche à analyser, mais on va la mélanger à une autre fréquence relativement proche, produite localement par un petit oscillateur local qui est ici, et puis on va les mélanger, et donc de ce mélange va résulter des battements. Alors il y aura un battement avec une haute fréquence, on ne s'y intéresse pas, mais un battement à basse fréquence, c'est lui qu'on va chercher à détecter de façon beaucoup plus facile, et donc va permettre de mesurer en fait ce qu'était le rayonnement initial. Alors voilà à quoi ressemble donc finalement un récepteur millimétrique. Et puis vraiment le cœur du récepteur, eh bien, c'est ce fameux mélangeur qui est ici et qui est ce qu'on appelle une jonction SIS. Bon, c'est un acronyme simplement pour supraconducteur, insulateur, supraconducteur, hein, ou superconducteur, donc un acronyme anglais. C'est un composant, disons, dont on a une illustration ici, donc une vue très agrandie, qui est un composant donc refroidi à basse température. On a juste un petit sandwich, si vous voulez, de matériaux d'un isolant, compris entre deux matériaux supraconducteurs, qui a donc des très bonnes propriétés pour effectuer ce mélange donc de fréquences à ces longueurs d'onde, tout en étant, disons, peu bruyant, en grande partie parce qu'il est refroidi donc à très basse température. Alors, bon, ben, demain, l'Europe et en fait le monde entier, on va assister là au développement d'un projet, je pense qui, j'espère, deviendra un exemple ensuite pour le développement d'autres projets, ou vraiment un projet complètement international, où donc les États-Unis, le Japon, l'Europe se réunissent pour développer un immense interféromètre. Donc vous avez vu l'interféromètre de l'IRAM, qui comporte 5 télescopes de 15 mètres de diamètre. Et bien là, il s'agit d'avoir un interféromètre beaucoup plus grand, qui va correspondre à une surface totale collectrice de 10 000 m², donc ce qui est bien plus grand que ce que fait l'IRAM actuellement, et qui comportera au minimum 64 antennes, sans doute plus si d'autres pays se joignent au partenariat. Et donc ces antennes seront installées sur un plateau extrêmement plat dans les Andes, au Chili, à plus de 5 000 m d'altitude. Donc là, ça sera, c'est pour ça que les personnages qui sont représentés ici, qui ont l'air de travailler bien calmement. En général, ça ne sera probablement pas des astronomes, parce que travailler à plus de 5000 mètres d'altitude n'est franchement pas facile. Alors, donc, ce projet, qui est maintenant est financé, donc, dont les études ont démarré, eh bien, sera probablement en opération vers les années 2008-2010. Et il pourra donc permettre notamment de s'intéresser aux galaxies extrêmement lointaines, celles vraiment qui correspondent au tout début, celles qui se sont formées peu de temps après le Big Bang, peu de temps après la naissance de l'univers. Ça, c'est vraiment un outil fantastique pour faire ce type d'observation. Alors là, j'ai une petite animation, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir, est-ce que ça marche, oui, qui montre un peu ce que sera finalement cet grand interféromètre équipé de ses 64 antennes, donc sur ce plateau qui est très très plat, entouré donc de volcans, de volcans éteints pour la plupart. Donc, notamment, il y a le Likankabur, qui est un superbe volcan. Je crois qu'on le devine dans le fond dans cette simulation. Et donc, ces télescopes pointeront simultanément les mêmes objets. Et du fait de la très grande distance entre les télescopes, eh bien, il va avoir ce pouvoir de résolution, cette qualité de distinguer les détails, équivalente à un télescope de plusieurs kilomètres de diamètre, comme si on avait un seul télescope de plusieurs kilomètres de diamètre, ce qui va lui donner des capacités remarquables. Voilà, donc la simulation se termine, ça devrait être le cas, et donc c'est une petite simulation réalisée toujours par l'European Southern Observatory, qui est un des partenaires de cette aventure. Alors, je vais terminer par ça. Donc, ça, c'était dans le domaine millimétrique. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le domaine visible, visible et infrarouge proche toujours? Quel sera le successeur du VLT? S'il y en a un, ben, ça sera peut-être Hall. Hall qui veut dire hibou en anglais, ou aussi Overwhelmingly Large Telescope, c'est-à-dire vraiment télescope gigantesque de façon superfétatoire, ça pourra peut-être être ce télescope. Alors c'est un télescope de 100 mètres de diamètre qui commence à être étudié très sérieusement. Donc vous voyez un peu le camion ici vous donne un peu l'échelle du dit télescope. Et ce qui est tout à fait surprenant, donc des études vraiment sérieuses sont démarrées, hein, pour l'instant, des études papier, bien entendu, et sur ordinateur. Ce qui est étonnant, c'est que la difficulté n'est pas du tout dans la structure du télescope qui doit supporter donc tous ces miroirs, c'est un miroir segmenté. Là aussi, beaucoup d'optiques, des grands miroirs. Vous voulez, le miroir secondaire d'un tel télescope, c'est un télescope de 8 mètres, c'est-à-dire l'équivalent d'un VLT. C'est pas facile, mais en fait, ça ne paraît pas être une difficulté majeure pour les ingénieurs. Ils réalisent en fait des structures plus grandes que ça. Les abris de Zeppelin, ben, ce sont des choses encore plus grandes que ça. Donc ce n'est pas vraiment là qu'est la vraie difficulté. La vraie difficulté, en fait, c'est l'optique adaptative. Ça paraît surprenant, mais je dirais que la raison d'être d'un tel télescope bien, n'a de sens que si on est capable de faire une optique adaptative comme le NAOS que je vous ai présenté tout à l'heure, mais adapter un tel télescope de 100 mètres. Sinon, ça n'a pas de sens. On n'y gagnera pratiquement rien. Et donc, développer une telle optique adaptative, c'est un pari qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on saura le tenir. Si les ordinateurs auront effectivement la puissance, il faut multiplier par 10 000 la puissance des ordinateurs capables de piloter une telle optique adaptative. Il faut des miroirs avec beaucoup plus d'actionneurs que ceux qu'on connaît actuellement. Donc il y a toute une technologie à préparer. Et puis si on démontre que ça peut fonctionner, ben, peut-être que ce projet verra le jour en 2000, qui sait, en 2015, peut-être en 2020. Mais il permettra à ce moment-là d'atteindre vraiment des objectifs absolument extraordinaires. Et je vais en terminer là. Dont un, par exemple, qui serait de produire l'image d'une planète extrasolaire. Donc avec un tel télescope, on pourrait effectivement produire peut-être l'image de ce qu'est de ce 51 PEG, là c'est bien sûr un artiste qui a dessiné cette superbe vue. 51 PEG B, c'est la première planète extrasolaire découverte en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence. Eh bien, ils l'ont découvert de façon indirecte, voilà, de façon indirecte, simplement montrant qu'il devait y avoir un mouvement de l'étoile qui ne peut être expliqué que par la présence d'une planète. Eh bien, maintenant, un succès qui serait absolument remarquable, ça serait d'obtenir une véritable image d'une telle planète autour d'une étoile, ce qui est d'une difficulté remarquable, puisqu'il y a un contraste de plus d'un milliard entre la luminosité de la planète et la luminosité de l'étoile. Donc un télescope comme le Hall pourrait très probablement permettre une telle imagerie. C'est ce qu'on peut souhaiter. Voilà, et je vais en terminer là.
Oui, bonsoir, merci pour cet exposé très didactique et très, très précis. Je vous prends juste au mot, vous parliez du projet Hall, en évoquant l'hypothétique détection d'une planète extrasolaire quand il sera en service. Mais est-ce que vous ne serez pas finalement doublé au finish par les progrès de résolution des appareils électromagnétiques qui ont des définitions très importantes, justement?
Qu'est-ce que vous appelez des appareils électromagnétiques?
Comme le ALMA ou des choses comme ça, qui ont des résolutions spatiales énormes aussi.
Oui, ils ont des résolutions, non pas ici énormes. ALMA, en fait, pas oublier, bon alors, je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais je dis que la résolution est inversement proportionnelle au diamètre du télescope, c'est vrai, mais elle est aussi proportionnelle à la longueur d'onde, c'est ça le problème. Donc un millimètre, ça veut dire que les détails, pour un même diamètre de télescope, les détails donnés à un millimètre sont mille fois plus mauvais, si je puis dire, que dans le visible. Donc les choses sont contrebalancées, et en fait, ALMA aura le même pouvoir de résolution qu'un télescope de 4 mètres équipé d'une optique adaptative, donc, ce qui est déjà absolument remarquable. Mais donc, il ne permettra pas ça. Alors, par ailleurs, on a fait le calcul quand même. Et l'émission d'une planète dans le domaine millimétrique est quand même très, très, très faible, tellement faible qu'on doit être juste à la limite de ne pas pouvoir la capter, probablement.
Deuxième question, et je. D'accord, ok. Sur un domaine, je voulais aller plus vers la partie grave du clavier électromagnétique. Vous avez très rapidement évoqué en fait, les ondes gravitationnelles. Je crois, si j'ai bonne mémoire, qu'il y a deux projets d'instruments de mesure en cours d'élaboration aux États-Unis, je crois en Italie, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas très sûr.
Oui, c'est ça.
D'abord, qu'est-ce que ces instruments, d'une part, est-ce qu'ils vont véritablement permettre de détecter, véritablement, est-ce qu'on est sûr des ondes gravitationnelles? Et deuxièmement, qu'est-ce que cette détection va ouvrir comme champ de connaissance et de compréhension à l'astrophysicien que vous êtes?
Bon, alors, d'abord, première petite remarque, ce n'est pas la partie base du spectre que j'ai présenté, parce que précisément, ce ne sont pas des ondes électromagnétiques. Les ondes gravitationnelles ne font pas partie des ondes électromagnétiques, ce sont des ondes gravitationnelles. Alors, elles sont produites, ce que la théorie prédit, en fait, c'est tout ça est basé sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, elles sont produites par des objets, je dirais, extrêmement massifs à qui il arrive des choses violentes, comme par exemple deux étoiles qui vont se fondre l'une dans l'autre. Bon, c'est un exemple. Une supernova qui explose va aussi produire des ondes gravitationnelles. Alors voilà, c'est un petit peu une partie de la réponse à votre question. Ce qu'on va chercher à détecter par ces ondes gravitationnelles, on a des espoirs raisonnables de pouvoir les détecter, si les théoriciens ne sont pas trompés dans leurs calculs, ce qu'on peut espérer, et bien de détecter des événements tels que je vous le partage. La coélescence de deux étoiles, dont on prédit qu'il y en aura quand même un certain nombre, plusieurs par an probablement. Alors ça, c'est dans tout l'univers. Hein. C'est ça aussi l'intérêt de ces ondes gravitationnelles, c'est qu'un événement qui pourra s'être produit à des millions d'années-lumière, en fait, pourra détecter, ces ondes gravitationnelles pourront être détectées sans trop de problèmes. C'est ce type d'événements, donc très très violents, je dirais, qui pourront être mesurés.
Et pourquoi n'installe-t-on pas, ou n'essaie-t-on pas d'installer des observatoires, des télescopes sur la Lune? On bénéficierait d'un support solide, donc possibilité d'installer de grands instruments. Alors est-ce que c'est un problème financier, politique, ou simplement scientifique ou technique, hein?
Je pense que c'est... Oui, vous avez raison, ça serait un site extraordinaire. Antoine Labéry, qui est un très grand astronome et opticien français, a proposé plusieurs fois donc, d'installer ce qu'on appelle des interféromètres. Donc, ce n'était pas des très grands télescopes. Hein. Ce sont plutôt des petits télescopes, mais qui permettent de synthétiser l'équivalent d'un très grand diamètre, donc de les installer sur la Lune. Bon, je crois que oui, effectivement, ce sont des raisons techniques et de coûts. Il est quand même extrêmement coûteux de faire une mission lunaire, de pouvoir positionner ces instruments avec une très très grande précision, alors qu'on peut le faire dans l'espace beaucoup plus facilement en fait. Et disons que que ce soit l'ESA, l'Agence spatiale européenne ou la NASA, s'intéressent à des projets qui sont plutôt des projets dans l'espace, où on a en fait des satellites indépendants, ce qu'on appelle des free flyers, pardon pour le mot, l'anglicisme, donc des satellites indépendants qui donc sont positionnés en fait de façon très très précise par des micro fusées, si je puis dire, et en fait ça reviendrait bien moins cher que d'aller se mettre sur la Lune. Alors maintenant, bon, votre question reste valide pour faire un très très grand télescope. Oui, ça serait un rêve, c'est certain. Un très grand télescope Hall mis sur la Lune, quel rêve, ça serait merveilleux. Mais ça doit être très, très cher.
Vous n'avez pas parlé du fonctionnement en mode interférométrique du VLT, ni des idées de Labéry d'interféromètre géant.
Parce que Pierre Léna va faire une conférence précisément sur la haute résolution angulaire demain. Non, après-demain, pardon. après-demain et qu'il en, nécessairement il en parlera. Mais bien entendu, c'est quelque chose de très important. Je n'avais pas beaucoup de temps. Il a fallu que j'épingle un certain nombre de points. Le fonctionnement du VLT en mode interférométrique est essentiel. C'est actuellement, ça commence à fonctionner. Ça va certainement produire de très, très beaux résultats. Et là encore, l'Europe est extrêmement bien placée sur ce champ. Vous avez raison de le signaler.
André Braik nous a dit hier que les objets les plus lointains observés à ce jour seraient à 12,7 milliards d'années.
Lumière.
Confirmation, lumière.
Oui, je n'ai pas fait la traduction. Disons que les astronomes raisonnent en décalage spectral. Et donc les Z égale 6 et quelques.
Donc le record absolu aujourd'hui, c'est...
Ça doit être Z égale 6,2, je crois, mais vraiment sans garantie totale, il me semble. Alors Z, ça veut dire simplement, oui, expliquons quand même au reste de l'Assemblée, ça veut dire que une longueur d'onde, l'émission d'une longueur d'onde précise, par exemple une raie, ces petites raies là donc que j'ai présentées, eh bien se trouve par l'effet Doppler décalée par un facteur 6, c'est-à-dire la longueur d'onde à laquelle on va l'observer est 6 fois plus grande que la longueur d'onde à laquelle elle a été émise. Donc par exemple, si on observe il y a une raie classique, des raies classiques disons qui sont vers 600 nanomètres, eh bien on va les observer à 3600 nanomètres dans l'infrarouge lointain, enfin l'infrarouge pas lointain non, mais dans l'infrarouge, et donc ça permet de mesurer effectivement la distance de cet objet.
On est donc tout près du Big Bang.
Oui, tout près du Big Bang.
Avec ce qu'on a pu lire dans la littérature scientifique il y a quelques années, ça, la période où, de mémoire, d'après ce que j'en ai lu, en tous les cas, on aurait observé des choses à des distances qui seraient supérieures et qui seraient de l'ordre de 18 milliards d'années. Alors il y a eu à l'époque un certain effroi parce que là, on se serait retrouvé.
Non, c'est pas tout à fait
alors,
ça.
Alors, quel est le, bon. Depuis, je crois que c'est les esprits se sont apaisés, mais peut-être oui. Pourriez-vous nous dire si la communauté scientifique est complètement d'accord.
Complètement au clair, oui. Je crois que maintenant, les choses sont à peu près calmées. Alors, c'est pas tellement qu'on avait observé des objets très lointains, c'est qu'on avait observé des objets très vieux. C'était ça le problème. C'est qu'on observait des objets plus vieux que ce que la mesure des distances de ces objets très lointains nous donnait pour l'âge de l'univers, nous donnait comme âge pour l'univers. Et donc, on observait des étoiles, tout bêtement, dans notre galaxie, qui avaient, en principe, d'après les modèles, disons, de la structure stellaire, avaient des âges de, effectivement, 18 milliards d'années. Donc, comment rendre compatibles les deux choses? Bon, depuis, effectivement, je crois que ça, c'est un peu des deux côtés, les choses se sont rapprochés et qu'il n'y a plus vraiment d'incompatibilité complète entre les deux, et notamment, je dirais que l'âge des étoiles qui avait été mesuré s'appuyait sur des modèles stellaires qui, depuis, ont été pas mal révisés et ont permis de concilier les choses. Au moins, de s'apercevoir qu'il y avait certainement une bonne marge, une bonne latitude, je dirais, d'erreur dans les modèles de ces étoiles.
Une dernière question, monsieur.
Il y a encore des petits problèmes qui ne sont plus aussi dramatiques, je dirais, qu'il y a quelques années.
Vous avez dit qu'on ne pouvait explorer avec les instruments actuels que la partie superficielle du Soleil, avec une couche vraiment très mince. Est-ce que dans l'avenir, on pourra avoir des instruments qui permettront d'explorer plus profondément une étoile comme le Soleil? Parce qu'il y a quand même des corpuscules, je crois, comme les neutrinos, qui sont pratiquement très peu absorbés.
Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait observer que le... J'ai dit simplement que la lumière qui nous provient que de la couche superficielle. Alors, comment est-ce qu'on va s'intéresser au cœur du Soleil, au cœur des étoiles? Ce n'est pas tellement par les neutrinos. Les neutrinos, je dirais, un peu comme leur nom l'indique, c'est très neutre, quoi. Disons qu'on sait exactement dans quelle réaction nucléaire ils sont produits. Ils ne nous apportent pas une information très, très riche. Quoique, il y a un problème sur le nombre de neutrinos détectés. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais ce n'est pas très riche. En fait, le phénomène sur lequel on compte, et qui commence déjà à fonctionner très très bien, ce sont les oscillations stellaires. Toutes les étoiles sont en fait des bulles de gaz, finalement, des masses de gaz. Et comme une bulle, quand vous faites une grosse bulle de savon, vous l'avez vu être agitée de mouvements, je dirais, un peu spasmodiques et irréguliers, eh bien, toutes les étoiles sont agitées de tels mouvements. Alors, bien sûr, ce n'est pas des énormes effets, ce sont des tout petits effets. Et ils se développent, disons, des modes différents. Il y a des modes comme ceci, il y a des modes plus complexes. Et l'étude de ces différents modes, les uns par rapport aux autres, nous renseigne en fait sur... Parce qu'ils se propagent, eux, à l'intérieur de l'étoile. Donc, ils permettent d'atteindre la structure vraiment disons, cette propagation dépend des conditions physiques à l'intérieur de l'étoile, la température, les pressions, etc. Et donc, la façon dont se propagent ces différents modes, en les étudiant tous, eh bien, va nous permettre précisément d'avoir des réponses beaucoup plus précises sur la structure interne des étoiles. Et là, il y a notamment un satellite qui va être lancé donc, dans pas très longtemps, en 2004, qui s'appelle COROT, qui va étudier beaucoup d'étoiles, un grand nombre d'étoiles. Disons, pour ce mode-là, il va examiner peut-être une quinzaine d'étoiles. Donc, il va chercher justement les différents modes de vibration pour remonter la structure de ces étoiles. Et on fait ça sur le Soleil, de façon courante. SOHO, qui est un satellite qui étudie le Soleil, permet de faire ce genre d'études et de progresser beaucoup.
Daniel Rouen, je vous remercie.